Donc bonjour, hein, chers amis de la Bibliothèque des Amis de l'Instruction. Et donc pendant cette conférence, je vais vous présenter la presse à sensation, le roman photo, le ciné-roman, cette presse populaire, enfin même ces médias populaires, parce que je vais aller juste les médias récents, qui est généralement toujours vilipendés, largement critiqués. Et on va essayer de comprendre, donc entre succès, et controverse, comment elle fonctionne. Cette presse, elle fonctionne à partir du fait divers, du roman populaire et du cinéma. Et elle se base sur la presse de grande consommation qui naît au milieu du 19e siècle, née de l'alphabétisation et de la baisse des coûts de production. Historiquement et culturellement, le berceau de la presse populaire naît au Royaume-Uni. L'inventeur de ce qu'on appelle le tabloïd, c'est-à-dire un journal rempli d'illustrations, c'est Alfred Amsworth, qui fonde le Daily Mail en 1896 et le Daily Mirror en 1903. Il comprend donc que les classes alphabétisées ouvrent à la presse un nouveau marché. Mais pour toucher ses lecteurs, il faut inventer une nouvelle forme de présentation des nouvelles. Privilégier le fait divers sur l'analyse, la proximité sur l'international, les formules choc sur la réflexion. Il est un des premiers à publier des photographies de la famille royale en 1903. Alors, le cinéma est aussi un grand vecteur de diffusion de la presse et un accélérateur de ce qu'on appelle la presse des célébrités. Le cinéma, c'est un outil fabuleux, transmédiatique, qui se décline dans une multitude de sous-produits, photographie, presse, novélisation, jeux vidéo, etc. Le ciné-roman, c'est le premier avatar issu du cinéma. Donc cette presse, elle permettait de revivre un film, surtout à une époque où il existait peu de cinéma, évidemment pas de télévision. C'était une adaptation écrite de films à succès, diffusés sous forme de revues. Ces fascicules, ils racontent en quelques pages et une dizaine de photographies un film en feuilleton hebdomadaire. Donc le ciné-roman, il arrive en France en 1915. Le Matin publie Les Mystères de New York et c'est tout de suite un grand succès. L'éditeur populaire Talendier repère tout de suite le filon et il est à l'origine de plusieurs collections, dont la plus célèbre est Cinéma Bibliothèque. Donc le ciné-roman, c'est un objet mixte qui n'existe que par ses références au film. Plusieurs autres éditeurs se lancent sur ce secteur qui connaît une forte diffusion jusque dans les années 60. Les formes vont évoluer jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, le ciné-roman utilise les techniques de la bande dessinée avec des bulles. Tous les genres sont adaptés, western, ciné, ciné classique, ciné hollywoodien. Le ciné-roman, il disparaît avec la diffusion élargie du cinéma et de la télévision. Les derniers avatars sont érotiques. Mais le mot ciné-roman a revécu, s'est retransformé depuis quelques années avec le festival Ciné-roman, mais là qui a plus un lien avec la littérature et l'adaptation romanesque de films, une autre métamorphose. Alors, la presse des vedettes. Le ciné-roman est lié avec cette presse des vedettes. La presse des vedettes, elle participe à la construction du mythe des stars. Et Hollywood mise sur les stars pour fidéliser son public. Beaucoup d'images qui exhibent les acteurs qui sont racontés sous divers films. Ciné-miroir paraît de 1922 à 1953. Ciné-monde, 1928-1971. Pour vous, hebdomadaire du cinéma, 1928-1940. Tentation Film, magazine créé en 1957, multiplie les genres, ciné-roman, presse de stars, roman photo. Et tous ces magazines, ils entretiennent le rêve cinématographique. Ils se consacrent à la vie des acteurs, aux chanteurs, à des personnalités du spectacle. Il donne évidemment des informations professionnelles, mais il s'intéresse beaucoup aussi à la vie privée. Articles sur les films, tournages, carrière, amour, mariage, drame. Voilà, interviews souvent mises en scène, hein, sur un ton assez accessible et émouvant. un autre type de contenu dans la presse à sensation, c'est celle qui est liée aux témoignages et aux récits de vie. Alors en 1919, l'éditeur Bernard McFadden commence la publication de True Story. C'est un magazine rempli de récits de première main sur des problèmes sociaux, adultère, chômage, relations humaines. Sensationnel, émotionnel, controversé, True Story rencontre un vif public. 2 millions d'exemplaires diffusés en 1929 chaque semaine. À la suite, il lance True Romance, un magazine plus modéré, centré sur les mésaventures féminines sentimentales. Ce type de magazine arrive en France en 1938, avec des contenus vendus par les Américains à des éditeurs français. Un des principaux revendeurs est l'agence de presse de Opéra de Paul Vinclair. Et Paul Vinclair publie en 1938 le premier numéro de Confidence, comme son nom l'indique. Ce sont donc des confessions souvent achetées aux États-Unis ou écrites par des journalistes, donc une mère rejetée par sa famille, une secrétaire séduite par son patron, une femme au foyer délaissée, une vendeuse tyrannisée. L'héroïne raconte une histoire vécue sur le ton de la confidence et l'histoire se conclut par des petits conseils. Ça forme un petit conte moral. Donc ce type de contenu s'éloigne de la vie des célébrités, mais il demeure une rubrique constante dans la presse populaire féminine. Alors la presse féminine, elle connaît un formidable essor après la Seconde Guerre mondiale. Elle s'organise en différentes catégories, avec des titres généralistes comme Elle ou Marie-France, des périodiques pratiques comme Modes et Travaux, et ce dont je vais vous parler, la presse populaire sentimentale. Le grand succès de cette presse, c'est l'irruption du roman photo. Donc il naît en Italie, ce que dit le fondateur de ce type de presse, donc le premier numéro, c'est Grand Hôtel 1946 en Italie, et les fondateurs, ce sont Domenico e Alceo del Duca, et qui publiaient déjà des bandes dessinées et des romans populaires. Il y avait d'un côté le succès des fumetti, de l'autre côté, le succès des romans populaires, leur union, c'est-à-dire des romans populaires en bande dessinée avec toile de fond du cinéma, devait nécessairement plaire. Et effectivement, ça a bien marché. Un des grands acteurs à qui j'ai consacré une biographie, c'est Cino Del Duca. C'est lui qui importe le roman photo en France et qui développe la presse sentimentale populaire. Donc il est arrivé en France en 1932. D'abord, il importe la bande dessinée américaine avec les comics. Puis, à partir de 1946, il développe largement la presse sentimentale. Ce qui fait qu'en 1967, quand il décède, il dirige le quatrième groupe de presse français. Son grand succès, c'est donc « Nous deux », dont le premier numéro paraît en mai 1947. Et ensuite, il inonde le marché. C'est-à-dire que dans la grande époque de la presse sentimentale, il publiait plus de 14 magazines toutes les semaines. C'est un type de presse transnationale, largement traduit. Là, vous avez un ou deux français et un grand hôtel italien. Et on pourrait avoir la même version argentine. Il y en a beaucoup en Amérique du Sud. Il y avait beaucoup d'Italiens en Amérique du Sud. Toujours des mêmes versions. C'est une presse peu respectueuse, on va dire, du droit d'auteur qui multiplie les versions. On va en voir un peu les contenus, le public. Alors, bon, les contenus, c'est plus de 75% de la surface qui est dévolue à ce qu'on appelle la fiction sentimentale, c'est-à-dire deux ou trois romans dessinés qui vont devenir rapidement des romans photos. On a parlé des histoires vécues, un roman d'amour à feuilleton, des nouvelles, et puis quand même quelques rubriques de savoir-vivre, de mode, d'horoscope, courrier des lecteurs, ce qu'on trouve un peu dans tous les magazines féminins. Le grand marqueur de cette presse, c'est leur couverture, qui sont pendant très longtemps dessinées, avec des couleurs chatoyantes et puis avec des événements marquants sur ces couvertures. On peut regretter que ces couvertures aient toutes complètement disparu, qu'il n'y ait aucune conservation des originaux de ces dessins, puisqu'à l'époque, les dessinateurs apportaient les originaux aux éditeurs, ils étaient payés souvent en cash, ils laissaient les couvertures, et les couvertures ont toutes disparu. Alors on peut se souvenir d'un nom d'un de ces grands dessinateurs, c'est Walter Molino, mais voilà, c'est un grand oublié de la bande dessinée et du dessin italien. Si on veut trouver de toute façon cette presse, le seul endroit c'est la Bibliothèque Nationale, personne d'autre n'a conservé, ou parfois dans des greniers, voilà, il y a des collections. Mais les originaux de cette presse ont disparu, ils sont tous partis à la poubelle quasiment. Alors la presse du cœur, elle tente de se décliner aussi un peu pour les hommes. Là, vous avez là l'exemple de Boléro ou de lui, quelques numéros. Alors je soupçonne, mais j'en ai pas la preuve, que celui c'est la version 1 du lui ensuite lancé par Daniel Filippacchi en 1963, parce que Del Duca et Filippacchi se connaissaient bien. Ces titres féminins, ils sont de toute façon largement lus aussi par les hommes. Dans Nous deux, qui paraît toujours, le couple et l'apanage. Il y a toujours un couple, son nom, Nous deux, il y a toujours un couple sur les couvertures de Nous deux. Et la couverture dessinée, vous voyez, elle disparaît en 1972, donc assez tardivement remplacée ensuite par des photographies. Alors, le roman, il est d'abord dessiné pendant quelques années, des dessins exécutés au lavis. Donc les dessinateurs, ils travaillent généralement à partir d'un simple synopsis qu'ils mettent en scène, mais le roman dessiné va vite disparaître pour être remplacé par la photo. Alors essentiellement des drames, il y a peu d'humour dans la presse de fiction sentimentale, évidemment un amour qui est souvent contrarié. On s'inspire aussi, vous reconnaissez certainement Sophia Loren, les dessinateurs s'inspirent aussi des stars qu'ils remettent hors contexte. Elle n'est pas dessinée pour être Sophia Loren, mais ça fait rêver. Donc le roman dessiné disparaît complètement en 1965, mais avant il a déjà été supplanté par le roman photo, donc qui apparaît pour la première fois en Italie dans la revue Sogno en 1947, en France Festival 1949 et Nous deux en 1950. Donc vous y reconnaissez la Sylvie Vartan par exemple. Alors, il y a aussi des adaptations de classiques en roman photo. Là, vous avez une adaptation des Misérables. Alors, le roman sentimental, qu'est-ce qu'il raconte ? Il raconte une relation amoureuse de la naissance jusqu'au sentiment, jusqu'à l'aboutissement, généralement heureux, parfois malheureux. Donc l'histoire, c'est un couple, d'autres personnages qui sont généralement des alliés ou souvent des ennemis, et l'histoire, c'est toute une multitude d'obstacles que va rencontrer le couple pendant toute la séquence de cette histoire. Et puis à chaque fin d'épisode, il y a un cliffhanger, comme dans toutes les séries aujourd'hui, qui permet de donner envie de continuer. Donc la presse du cœur, elle renouvelle aussi un peu le genre du roman sentimental, qui existe quand même depuis un petit siècle, avec Magali, Max Duvesit, Délie. Donc dans la presse sentimentale, on trouve un peu plus de professions modernes. Les femmes travaillent aussi, alors donc les hommes vont être plutôt mécaniciens, ingénieurs ou pilotes d'avion que princes. Les femmes travaillent. Et l'adultère n'est plus complètement tabou, et parfois quelques petites touches coquines peuvent effleurer quelques pages. Donc le cinéma, la bande dessinée et le roman policier américain ont influencé le récit sentimental en lui donnant un rythme plus vif et un ton plus moderne. Qui lit la presse sentimentale ? Vous voyez, Michel Cotta en 1960, journaliste déjà à l'époque, elle dit 6 millions de femmes achètent chaque semaine les hebdomadaires du cœur. 6 millions de lectrices et un certain nombre aussi d'hommes qui lisent cette presse, donc 41% d'hommes, 59% de femmes. Beaucoup de lecteurs adolescents s'instruisent sur les événements basiques de la vie sentimentale à travers cette presse. Les catégories sociales sont plutôt populaires, ouvriers, employés, sortis de l'école primaire, vivant plutôt dans les zones rurales et dans les petites villes. Et Nous Deux, par exemple, existent toujours, tirent toujours à peu près 200 000 exemplaires chaque semaine, mais on le trouve essentiellement dans les zones rurales. Allez dans un kiosque et vous verrez qu'il est fait à côté des journaux des célébrités. Hein. Le Nous Deux existe toujours, mais à Paris, on le trouve quasiment pas, hein. Quasiment plus. Mais il fonctionne toujours. Une lecture aussi de toutes les jeunes filles et beaucoup de garçons hein, qui passent par l'étape de la presse sentimentale. Et les rares adolescents qui ne s'aventurent pas à feuilleter ces magazines sont ceux qui sont issus de milieux intellectuels, politisés ou religieux qui interdisent à leurs enfants de lire ce genre de magazine. Mais enfin bon, ils sont quand même nombreux à passer outre les interdictions familiales. Donc, après le succès, la controverse. Parce que cette presse, elle est largement attaquée hein, et elle est même au cœur hein, d'une bataille de moralisation de la société de l'après-guerre pour défendre la culture lettrée face à l'invasion de la culture de masse. Il faut se rappeler que l'éducation populaire, c'est une des ambitions affirmées hein, de la libération, que l'époque aussi est militante, les intellectuels s'engagent dans des débats politiques et sociaux. Et toute une génération d'intellectuels, d'écrivains, d'artistes sont inscrits au Parti communiste. Ils croient que le prolétariat, classe universelle, émancipera l'humanité. Pour cela, pas question que ce prolétariat se laisse aller à des distractions vulgaires, artificielles et aliénantes. Ces militants, ils sont à l'écoute des intellectuels qui réfléchissent à cette culture de masse. La critique de la culture de masse, elle naît dans les années 30. Théodore Adorno, de l'école de Francfort, est un des premiers à définir en 1938 la Kulturindustrie, juxtaposition de deux mots qui n'est pas anodine. À culture, on associe la création, le non-conformisme, et à industrie, on associe la gestion, la standardisation. La théorie d'Adorno, c'est en quelque sorte un oxymore critique. La masse est un marché avec deux mots qui s'opposent. Culture et masse, deux mots en contradiction. La masse, effectivement un marché, des besoins définis par des commerçants. La culture, un espace d'évasion. Comment se faire rencontrer les deux espaces ? Cette culture de la consommation, elle crée effectivement hein, des produits stéréotypés, des productions industrielles qui n'ont plus rien de culturel. Walter Benjamin affirme que les techniques de reproduction mécanisées, je cite, sont un mouvement d'avilissement de la forme originelle. Donc ces intellectuels, ils alertent sur le danger d'homogénéisation de la culture. Et la culture humaniste classique, elle est menacée par cette confusion entre art et bien de consommation. Ces produits sont fabriqués pour plaire, ils sont au cœur d'un fonctionnement économique qui ne doit plus rien à la culture, à l'art et même à la démocratie. En effet, les propagandes fascistes ont montré les usages qui pouvaient être faits de ces médias. Ces productions, on peut craindre qu'elles formatent doucement, mais sûrement l'esprit de l'homme, pour en faire un consommateur dénué de sens critique. Donc les intellectuels, ils dressent un portrait très pessimiste de la culture de masse. Ils décrivent une future société aliénante, avec aliénés, avec des individus uniformisés et passifs. Et en aucun cas, on ne peut assimiler ces productions à des œuvres d'art. L'art, lui, a une fonction de transmission. Rimbaud dit que le créateur est un voyant. Picasso dit que le créateur est un être antisocial. Rien à voir avec les équipes qui conçoivent des films hollywoodiens. Cette dénonciation, elle atteint son apogée à la fin des années 60. Aussi avec la crainte de l'impérialisme yankee. Parce que le modèle du divertissement, il est largement dominé par les Américains. Donc cette massification des pratiques culturelles, elle alerte tous les promoteurs de la culture classique. Et Dans ce cadre, la protection des jeunes et des femmes est encore plus importante, considérée par certains comme une mission de salut public. Les femmes, les enfants et les classes populaires sont des catégories moins formées et donc considérées comme plus fragiles. Certains estiment que ces classes ne sont pas capables de choisir leurs loisirs et que leur accès à l'information et la culture doit être balisé. Créateurs, éditeurs ont donc des responsabilités et une mission d'éducation à assumer. Mais rappelons-nous, la critique des médias populaires, c'est une constante. Elle existe déjà avec le roman feuilleton au XIXe siècle, Sainte-Beuve la qualifiant de littérature industrielle. En 1958, vous voyez, un quotidien, Dimanche éclair, évoque bien cette crainte. Peut-on sans danger se laisser prendre au mirage de la presse du cœur ? Est-elle une distraction inoffensive ou au contraire un pernicieux narcotique ? Vous voyez là, une revue communiste, Regard, fait un article sur la presse du cœur qui s'appelle « Les empoisonneurs publics ». Et cette doxa, elle est aussi alimentée par l'idéologie marxiste et on y retrouve l'allégorie de Marx sur cette presse comparée, cette culture comparée à un apaisant, à un neuroleptique. Dans ce numéro de 1997 du Monde diplomatique, on reprend ce nouvel culture de masse opium du peuple. Ignacio Ramonet, dans son éditorial, dit « Ces opiums des masses proposent une sorte de meilleur des mondes, distrayant les citoyens et les détournant de l'action civique ». Alors, ces virulentes critiques, elles ne sont pas sans effet sur la diffusion de ce type de produits. Donc, la presse du cœur est quand même victime de cette mise à l'écart. Elle subit aussi la concurrence de la montée en puissance de la télévision et le roman photo ne résiste pas aux images animées. Le roman sentimental, il quitte progressivement le monde de la presse et le format livre, au final, convient mieux que le feuilleton. Particulièrement avec l'arrivée de l'éditeur canadien Harlequin qui rafle la mise du roman sentimental. Mais d'autres types de presse populaire se profilent. La presse des célébrités revient très à la mode dans l'après-guerre. Là, vous avez l'exemple d'une presse très classique, de point de vue ou image du monde, point de vue qui est créé par Marcel Bleustein-Blanchet en 1945, le patron de Publicis, magazine de bonne tenue qui traite essentiellement des actualités royales et princières du monde entier. La presse des faits divers prend aussi une grande place dans l'après-guerre, avec France Dimanche et Ici Paris. France Dimanche, lancée en 1946 par Pierre Lazareff, le patron de France Soir, journal populaire essentiellement consacré aux faits divers. On se rappellera aussi de Détective, le plus grand hebdomadaire des faits divers, fondé par les frères Kessel en 1928. Détective existe toujours sous le nom Nouveau Détective. Ici Paris est créé en 1945, là aussi par des compagnons issus de la Résistance. Donc ce sont des magazines qui reposent sur le fait divers et sur les célébrités. Dès la fin du 19e siècle, les journaux comme Le Petit Parisien consacraient déjà plus de 20% de leur contenu aux meurtres et aux autres histoires policières. On va lire une citation de Pierre Larousse dans son dictionnaire qui donne une définition assez truculente du fait divers. Donc sous cette rubrique, les journaux publient régulièrement les nouvelles de toutes sortes, petits scandales, accidents de voiture, crimes épouvantables, suicides d'amour, couvreurs tombant d'un cinquième étage, vol à main armée, pluie de sauterelles ou de crapauds, naufrages, incendies, inondations, aventures cocasses, enlèvements mystérieux, exécutions, morts, cas d'anthropophagie, de somnambulisme et de léthargie. Les sauvetages y entrent pour une large part. Et les phénomènes de la nature y font merveille, tels que veau à deux têtes, crapaud âgé de 4000 ans, jumeaux soudés par la peau du ventre, enfant à trois yeux, nain extraordinaire. Bon, plus d'un siècle plus tard, on peut dire que ces sujets perdure avec quelques modifications. Hein. Mais les faits divers, ce sont toujours des déchirements humains, des hommes soumis à des épreuves violentes, insolites. Et dans la presse, donc un fait divers est brut, il se suffit à lui-même. Pas de morale, pas d'analyse, le journaliste y collecte les informations et il les met en scène en racontant une histoire pleine de suspense, avec des phrases brèves et percutantes. Certaines affaires à rebondissement ou des procès peuvent être pris régulièrement. France Dimanche et ici Paris sont lus dans les milieux populaires et très appréciés. Un autre grand titre de la presse à sensation et de la presse populaire, c'est Paris Match, fondé en 1928, mis en veille pendant la guerre, donc il a le droit de reparaître en 1949. Il est dirigé par le patron de presse Jean Prouveau, celui qui dirige Paris Soir et qui a fondé Marie Claire. En 1959, il tire à 1,5 million d'exemplaires. C'est un picture magazine sur le modèle américain de Life ou de Look. Donc il garantit son succès avec une tendance à la presse people très affirmée. Et il atteint d'ailleurs ses plus fortes ventes lors de grands événements. Le mariage de Charles d'Angleterre et de Diana Spencer, 2 millions d'exemplaires, ou la mort de Grace de Monaco. Cet hebdomadaire, il demeure encore aujourd'hui une référence majeure sur le créneau de la vie des célébrités. Mais, comme pour l'ensemble de la presse, ses tirages baissent. Hein. Si on était à plus d'un million d'exemplaires dans les années 80, hein, la moyenne du tirage de Paris Match en 2025, ce qui est 450 000 exemplaires. Un autre phénomène, c'est la presse des vedettes pour les jeunes, avec l'arrivée de « Salut les copains ». C'est une presse de génération. Les enfants qui sont issus du baby-boom renouvellent leurs idoles avec les yéyés. « Salut les copains » est lancé durant l'été 1962 par Franck Thénault et Daniel Philippaki comme un prolongement écrit de leur émission radiophonique lancée sur Europe 1, qui porte le même nom. Il donne, ce magazine, une unité à toute une génération yéyé, Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, Eddie Mitchell, Françoise Hardy, Claude François en sont les héros. La proximité avec ces vedettes constitue le centre des magazines. Donc les articles s'intéressent à la vie quotidienne des chanteurs, drame, amour, rupture, etc. etc. Et les adolescents sont évidemment la cible principale de cette presse. À la suite, de nombreux magazines se lancent, hein, comme Mademoiselle Achetante, Bonjour les amis, Best, Formidable, Nous les garçons. Cette presse, elle symbolise vraiment l'aspiration d'une nouvelle génération. Toutefois, la presse populaire française n'a jamais osé dépasser une certaine limite. La presse sensationnaliste, elle fonctionnait toujours en connivence avec les vedettes, avec les politiques et avec les personnes interviewées. Le groupe allemand Bertelsmann, qui arrive dans les années 80, bouleverse ce secteur. Alors, sur la presse féminine pratique avec Femme Actuelle, qui modernise et modifie des segments de la presse féminine, et sur la presse People avec Voici. Alors, je reviens sur Bertelsmann, qui est à l'origine d'un journal, d'un quotidien qui s'appelle Bildzeitung, 4 pages, illustré, vendu à très bas prix, racoleur, simpliste, qui tire à 4 millions d'exemplaires. Hein. Bon, il est tombé aujourd'hui à 1 million d'exemplaires, mais dans les années 60, 4 millions d'exemplaires vendus quotidiennement. Donc, les tabloïds reposent sur un triptyque, sexe, scandale et sport. Un journalisme anti-élitiste qui s'abreuve de sensationnel et qui n'hésite pas à attaquer les politiciens et les Nancy. Aussi, un autre personnage, c'est Robert Murdoch, en Angleterre, propriétaire du Sun. Diffusion moyenne en 2010, 2,7 millions d'exemplaires quotidiens. Même type de presse, une presse qui ne s'embarrasse d'aucune subtilité. Les journalistes français, eux, ont toujours été très hostiles à ces dérives. Et il n'a jamais existé de grand journal tabloïd diffusant à autant d'exemplaires et d'une, on va dire, d'une telle simplicité en France. Ceci dit, l'arrivée de Voici va modifier la donne sur la presse People. Donc Voici, c'est un journal orienté vers le scoop, le spectaculaire, assez insolent et trivial. Il est lancé en 1987 par le groupe allemand Bertelsmann et c'est un vrai coup de tonnerre dans la presse People, qui fonctionnait quand même en connivence avec les acteurs célèbres qu'elle l'interviewait. Là, la recette du succès, c'est la vie privée non officielle, la vie privée cachée des stars. Cachée ou plus ou moins. Donc, séparation, adultère, dénicher des photos cachées et les publier le plus possible. Alors, une multitude de journaux se lancent à la suite de ce modèle, hein, donc environ 50 titres hebdomadaires qui fleurissent dans les années 80. L'Olympe des stars, elle s'élargit au Playboy, au Bimbo. Hein, ces Olympiens de papier ne sont pas seulement les héros d'une Dolce Vita internationale, mais ils sont soumis à des tourments, à la solitude, à la haine. Et richesse et gloire ne sont pas synonymes de bonheur. Là aussi, hein, on y trouve les mêmes rengaines de la presse du cœur et du roman sentimental, mais ils se déroulent dans un nouveau cadre. Toujours un amour, toujours une rencontre, toujours des obstacles. Mais là, le temps est raccourci, les photos sont flash, c'est deux photos, quatre lignes et l'histoire est bouclée. Trois grands sujets, donc les stars, l'amour, les stars et leurs enfants, les stars et leur vie professionnelle. Alors on s'avance un peu dans le temps et on va parler des nouvelles stars. En commençant par cette phrase d'un sociologue, qu'est-ce qu'une célébrité ? La célébrité est une personne qui est connue pour le fait d'être connue. Daniel Borstein, un sociologue américain, écrit cette phrase dans les années 60 et il n'imaginait pas, dans son étude sur l'hyper-réalité, que sa définition s'incarnerait aussi bien dans la télé-réalité et les stars du numérique. En 2024, Poupette Kanza, que vous voyez là, a été une des Françaises les plus célèbres sur les réseaux sociaux. Cette jeune femme, elle a tout juste filmé sa vie sur son smartphone et diffusé son quotidien sur les réseaux sociaux. Elle n'avait jamais fait d'émission de télé-réalité. Elle est donc un pur produit des réseaux. Elle dévoile le côté coulisses, un quotidien banal, une Française moyenne. À l'inverse de certaines influenceuses sur les réseaux qui montrent une image lisse, utilisent des filtres et un quotidien fait de paillettes et de plages à Dubaï. Télé-réalité, influenceurs, médias populaires poursuivent leur mutation. Vous vous souvenez certainement, en 2001, les lofters qui étaient apparus sur les écrans de télévision pour la première fois en France, des inconnus étaient filmés en continu sur la chaîne M6. Depuis, les héros de télé-réalité ont investi les réseaux sociaux numériques dans une forme de complémentarité avec les émissions télé. Souvent, ces candidats gèrent eux-mêmes leur pseudo-notoriété à travers leur compte, leur visibilité numérique. Alors, on a fait là un rapide panorama de ces médias de loisirs, basés sur l'attrait pour l'intimité, les secrets, les rebondissements. Et on peut quand même se poser la question de l'intérêt de ces médias. Ils ne sont pas très glorieux, ces médias. Vite lus, vite vus, jamais complimentés, toujours critiqués. Mais pourquoi est-ce que ça marche ? Pourquoi un tel attrait depuis autant d'années ? Que cherchent ces millions d'admirateurs ? Des nouvelles recherches ont été menées depuis les années 60. Et l'idée d'un public aliéné, fasciné, obnubilé et finalement assez caricatural. Le lecteur, l'auditeur, le spectateur est un récepteur actif. En 1964, Richard Hogarth, dans La culture du pauvre, insiste, je cite, « sur la capacité des gens du peuple à maintenir une séparation solide entre le divertissement et la vie réelle. Narcoleptique, peut-être, mais sur une durée limitée et contrôlée. Ciné, télé, jeux vidéo, BD sont une source de plaisir qui demeure dans une place définie. En France, Edgar Morin et Roland Barthes montrent l'importance des pratiques de distraction qui servent de défoulement et de catharsis, qui permettent l'épuration des passions. Non, les spectateurs ne sont pas des mollusques culturels manipulés par les médias. Ils restent actifs et gardent leur sens critique. Mais pourquoi ça plaît autant ? Observer la vie intime est une façon d'assister à distance aux petites tragédies de l'existence. À travers la vie privée de ces héros, le public expérimente mentalement des situations inconnues ou nouvelles. Les gens aiment savoir ce qui se passe dans la vie privée d'autrui, mais cela ne relève pas forcément d'un voyeurisme malsain. C'est un mécanisme mental profondément ancré dans le cerveau humain. Nous, humains, nous sommes des animaux sociaux qui vivons en groupe. Nous avons besoin de résoudre en permanence des problèmes de relations sociales, d'amitié, de rupture. Nous sommes donc très intéressés par tout ce qui touche aux relations humaines intimes. Observer ce qui se passe chez autrui, c'est une façon d'apprendre de comment font les autres. Voilà pourquoi nous sommes fascinés par tout ce qui touche au potin. Le goût pour le people comporte une dimension de sociabilité. Le commérage entre amis, en famille, au café, au travail, permet de créer du lien, de partager des valeurs ou des critiques. Dans les villages, on n'en finissait pas de parler des frasques du cousin et des déboires de la fille du patron. En ville, on se connaît moins. Drame, jalousie, succès, de Johnny, Nabila ou Britney ont remplacé ces ragots de village. Au final, le people peut paraître dérisoire, futile, sordide, vulgaire, obscène, et c'est souvent le cas. Mais il touche à des cordes sensibles qui renvoient finalement à quelque chose de très profond dans notre fonctionnement. Et c'est pour ça que ça marche si bien. Je poursuis et j'arrive presque à la conclusion avec un travail récent. Johann Verillac, maître de conférences en littérature, qui a écrit en 2024 un livre sur ce qu'il appelle le sensationnalisme. Il le définit comme consubstantiel à nos démocraties. Cette culture de l'insignifiance, de la superficialité, est un vecteur de cohésion sociale. Alors il définit ainsi le sensationnalisme à partir de trois traits: une promesse d'intensité par l'excès, une relation au présent et une indifférence à toute forme de cohérence logique, narrative ou morale. Bon, cette définition, on pourra en parler après, elle me fait quand même penser à l'attitude d'un homme politique actuel. Des journaux à Netflix, Instagram, nous sont donc entourés de ces objets qui augmentent notre plaisir et ce qu'il appelle cette extension moderne du bavardage classique est une sensation du monde moderne. Alors, mon discours a peut-être pu vous paraître trop indulgent ou tolérant vis-à-vis de ces médias qui sont toujours méprisés ou critiqués. Mais bon, historienne du culturel, je m'intéresse sans préjugé aux œuvres plébiscitées par leur époque et j'essaye de comprendre pourquoi elles fonctionnent et pourquoi elles ont fonctionné. On constate d'ailleurs en permanence que certains genres sont réhabilités, romans policiers, bandes dessinées, jeux vidéo, France Culture a même une émission qui s'appelle « Mauvais genre ». Alors certes, ces productions, elles ne relèvent pas le niveau intellectuel des populations. Ceci dit, la notion de valeur culturelle s'apparente toujours à une énigme. Et donc, voilà, au lieu de critiquer, j'ai essayé de comprendre, de divulguer, de savoir comment ça peut fonctionner. Merci pour votre attention. Merci.